France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Un dossier de violence intrafamiliale, c'est un dossier particulier avec souvent un lourd passif douloureux pour la victime. Donc ça nous apparaît, c'est important d'avoir des avocats formés et spécialisés à ces cas particuliers.
Il faut comprendre pourquoi les victimes sont dans cette situation-là, viennent peut-être tardivement déposer plainte, ont peut-être du mal à expliquer les choses. Et ça permet de mieux les entendre, de mieux les comprendre et donc de mieux juger.
Alors je pense que la justice a profondément avancé au cours de ces dernières années. La justice n'a cessé de se former, d'évoluer, de s'adapter pour faire face à ce phénomène.
On parlait il n'y a pas si longtemps de crimes passionnels. La France regarde un peu plus aujourd'hui la réalité en face. Le terme de féminicide est souvent employé par les médias et les chiffres ne sont plus tabous. 94 femmes sont tombées sous les coups de leur conjoint ou ex-compagnon en 2023, selon le ministère de la Justice. Une femme tous les trois jours en 2022, année où 245 000 personnes ont été victimes de violences conjugales. La notion d'emprise a été largement documentée par les sciences sociales et la loi elle-même a évolué. Le Grenelle des violences conjugales, organisé en 2019, a conduit à une meilleure protection des victimes, avec notamment la mise en place du bracelet anti-rapprochement. Et en mai 2023, un rapport parlementaire, le plan Rouge Vif, a soumis de nouvelles propositions au garde des Sceaux pour améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales. La sénatrice Dominique Vérien et la députée Émilie Chandler ont été entendues. Depuis le 1er janvier, des pôles spécialisés dans la lutte contre les violences familiales doivent exister dans tous les tribunaux judiciaires et dans les cours d'appel. L'idée, c'est de faire travailler ensemble tous les acteurs de la chaîne judiciaire et de décloisonner civil et pénal pour être à même de gérer les situations de façon plus cohérente et globale. Que change la généralisation de ces pôles spécialisés? Permet-elle à la justice de faire face aux urgences? Répond-elle aux attentes des magistrats, des avocats, des associations d'aide aux victimes? Et peut-elle aussi contribuer à prévenir de nouveaux drames? Violence intrafamiliale, le nouveau combat judiciaire, c'est un reportage signé Florence Turm. Bonjour Florence.
Bonjour Aurélie.
3 mois à peine après leur mise en route, il est évidemment trop tôt pour dresser un bilan de ces nouveaux pôles judiciaires, mais vous vous êtes rendue dans une juridiction qui avait anticipé la réforme.
Oui, avec à la fois des initiatives concrètes et des intentions affichées de mener cette lutte contre les violences intrafamiliales, les VIF, vous entendrez d'ailleurs souvent cet acronyme dans le reportage, des juridictions qui s'impliquent, il y en a bien sûr plusieurs en France, on peut citer Versailles ou encore Bobigny, mais c'est une carte de vœux, celle de la Cour d'appel de Poitiers, qui m'a interpellée et donné l'idée, l'envie d'aller dans la Vienne et en Charente-Maritime. Car sur cette carte s'étale un slogan « Contre les violences faites aux femmes » et à l'intérieur se déploie un violentomètre. C'est une sorte d'échelle de Richter de la relation conjugale qui peut passer du vert au rouge vif, d'une relation saine et équilibrée, on évolue vers le contrôle, c'est le moment de dire stop, jusqu'à la violence, la situation de danger et l'urgence. Un outil qui se répand dans notre quotidien, dans les hôpitaux, les entreprises, des boulangeries ont même récemment imprimé ces violentomètres sur leurs étuis de baguette. Et au-delà de ces paroles recueillies sur ce terrain, j'ai également voulu comprendre, dans un second temps, comment les acteurs du monde judiciaire se formaient à l'application des nouvelles lois et aux concepts qui entourent les VIF, les violences intrafamiliales.
Merci Florence, on va écouter tout ça. Je salue d'abord notre invitée, la sociologue Solène Joanneau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à Sciences Po Strasbourg. Vous êtes aussi l'autrice du livre « Les femmes et les enfants d'abord » avec un point d'interrogation, « Enquête sur l'ordonnance de protection », livre paru aux éditions CNRS. Je vous propose donc tout de suite d'écouter ce reportage de Florence Turm avec d'abord le témoignage d'une victime rencontrée à Saintes en Charente-Maritime.
Bonjour.
Bonjour.
On vous appelle comment ?
Christine. Aujourd'hui j'ai 54 ans, je suis maman d'un garçon qui est aujourd'hui adulte, qui travaille, donc aujourd'hui je vis seule. Je suis fonctionnaire de la fonction hospitalière.
Vous avez été victime ? À quel moment de votre vie ?
Eh bien, effectivement, j'ai rencontré quelqu'un via les réseaux sociaux. Et puis, tout se passait bien. Donc, cette personne est rapidement, trop rapidement, venue s'installer chez moi. Et au bout de quelques mois, le cauchemar a commencé. Hein. Donc, j'ai découvert qu'il était alcoolique. À l'époque, il ne travaillait pas. Donc, il buvait la journée. Moi, j'étais partie travailler. Hein. Donc je voyais rien. Tout de suite, j'ai vu chez lui des sauts d'humeur, des comportements inadaptés. Rapidement, je lui ai demandé de partir et c'était pas possible en fait. Voilà, donc il revenait avec des fleurs. C'est le processus habituel, hein, voilà. C'est je t'insulte, je te pourris la vie, et puis je m'en vais, puis je reviens avec des fleurs. Et c'est reparti, et c'est le cycle de la violence. Voilà, j'ai appris tout ça. Et puis les crises se sont accélérées, sont devenues de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. Je dois préciser quand même qu'il ne m'a jamais tapé, jamais. Jamais. Il y a eu des objets balancés, il y a eu des coups dans les portes, des portes claquées, des comportements violents, mais jamais dans ma personne, quoi. Toujours est-il que la violence psychologique, oui, c'est quelque chose qui atteint votre âme. Tout ce qui est profond chez vous, en fait, à votre confiance en soi, la façon dont on se voit ensuite, voilà, c'est quelque chose qui est très insidieux, en fait, vous vous en rendez pas compte. Parce qu'au départ, c'est pas grand-chose. C'est « oh, tu me fais chier » ou des... voilà, donc on laisse passer. Mais en fait, il ne faut pas laisser passer ça. Moi, j'ai envie de dire à toutes les femmes, surtout pas. Et puis, bah, les mois ont passé et c'était de pire en pire, voilà. J'ai fait un message un soir où j'étais vraiment enfermée dans une chambre chez moi. J'étais enfermée à clé, hein, parce qu'il était en train de tout péter et c'est difficile. Et j'ai lancé un message d'alerte, en fait, en disant « j'ai peur ». Donc ma sœur a tout de suite réagi, le lendemain matin elle était là, lui il était parti. Et là, elle m'a dit « bon allez hop, maintenant c'est bon, ça suffit, on va à la gendarmerie ». Et tout ça s'est enclenché ensuite. Et suite à la plainte, ça a été compliqué, lui était parti, l'auteur, et puis il est revenu, il rôdait autour de chez moi. Je sais qu'il rentrait chez moi la nuit, enfin dans mon jardin. Voilà, donc la trouille au ventre tout le temps, pas de sommeil, etc. Là par contre tout le monde était au courant autour de moi. Mes voisins veillaient. Donc effectivement, m'appelait en disant « il est chez toi, il est passé au-dessus de ton portail ». Et j'appelais les gendarmes à tout bout de champ jusqu'au jour où ils ont réussi à le coincer autour de chez moi en alcoolémie. Il avait des jumelles dans sa voiture, donc il était en train d'espionner chez moi. Enfin, ça a été un épisode très compliqué, mais il fallait passer par là. Voilà.
Donc cette plainte, elle a ensuite évolué en justice. Il y a eu une condamnation pour lui ?
Oui, il y a eu une condamnation. Au départ, il avait été soumis à un stage pour les conjoints violents. Et puis après, il a tenté de revenir. Moi, j'étais sous emprise. Hein. Voilà.
Donc une condamnation et puis des dispositifs dont vous avez pu bénéficier.
Alors, en fait, ça a été un parcours assez difficile. Les gendarmes avaient besoin de faits, en fait, de faits. Le point final de ça, en fait, j'ai installé une caméra chez moi. Ma sœur me disait, mets une caméra, un jour, il va rentrer chez toi, etc. Et donc, j'ai mis une caméra chez moi et je suis partie le week-end. Ça a mis 3 heures. Hein. Et effectivement, voilà, il était dans mon arrière-cuisine. Donc, gendarmes, etc., le lendemain. Et là, ça a été vraiment le début d'une vraie procédure. Voilà, donc eux ont été le choper chez lui dès l'après-midi, ils l'ont mis en garde à vue, ont prévenu le procureur de la République qui a tout de suite mis en place une incarcération en fait. Hein. Voilà, donc il a écopé de, je crois que c'était 1 mois et demi, il fallait une remise, 1 mois je crois de prison. Et à l'issue de cette peine, il a été équipé du bracelet, voilà.
Le bracelet anti-rapprochement.
Oui, tout à fait. Et moi, j'ai pu avoir la chance, vraiment, c'est vraiment une chance de bénéficier de ce dispositif pendant 1 an de sa sortie de prison. Donc, vous vous sentez hyper sécurisé, ça, c'est sûr.
Donc, là, cette partie-là, c'est fini, mais après, vous avez bénéficié d'un autre dispositif.
Alors oui, effectivement, j'ai rendu le bar, ça devait être le 16 ou le 17 janvier cette année. Là, c'était une petite semaine un peu compliquée pour moi, parce qu'en fait, il était devenu mon meilleur ami, hein, je l'avais toujours avec moi. Et d'un coup, je rends ce dispositif et je me retrouve sans rien. En période hivernale, donc moi j'ai des horaires très décalés, je pars parfois très tôt le matin, très tard le soir, il fait nuit. Et là je me suis remise à avoir peur, hein, c'est vrai. Lui il n'avait plus de bracelet, donc il n'était plus sous contrôle non plus. Donc je me suis dit qu'est-ce qu'il va faire, à quoi il pense, etc. Et rapidement Madame Poupard m'a recontactée pour me dire c'est bon, je vous ai obtenu un TGD. Donc le téléphone grave danger que j'ai aujourd'hui avec moi, hein, toujours. Et ça consiste à un petit téléphone portable Samsung qui n'a qu'une seule option, c'est-à-dire vous cliquez 3 fois et vous êtes directement mis en relation avec une plateforme qui vous rappelle instantanément. Hein, c'est pratiquement instantané. Et qui aussi, si vous ne pouvez pas décrocher ou répondre, vous enregistre. Donc s'il y a quoi que ce soit, vous le déclenchez, vous le posez et le dispositif enregistre la scène ou ce qui se passe autour de vous. Voilà.
Ça, vous l'avez toujours dans votre sac ?
Bien sûr. Donc, je l'ai près de moi, sur ma table de nuit, la nuit. Voilà.
Vous avez eu à l'utiliser ?
Non, je me dis, j'espère ne pas en avoir besoin, mais c'est toujours rassurant.
Vous vous sentez comment aujourd'hui ?
En phase de reconstruction. J'ai beaucoup lu, essayé de comprendre ce qui s'était passé, parce que cette situation ne me ressemblait pas. Enfin, je ne pensais pas qu'un jour je vivrais ça. Moi, je suis une femme de caractère, je sais dire les choses, je suis plutôt cash dans la vie. Et m'être laissée manipuler comme ça, ça c'est quelque chose quand même qui reste difficile.
Qu'est-ce qui vous a aidé le plus dans ce processus que vous décrivez aujourd'hui comme un processus de reconstruction? En tout cas, qu'est-ce qui vous a aidé le plus à vous en sortir?
Je dirais que c'est un tout. Chaque acteur, à un moment donné, est arrivé dans ma vie. Ça a été ma sœur, ça a été le CIDFF, ça a été les gendarmes, beaucoup, beaucoup, beaucoup les gendarmes, qui ont été très, très à l'écoute. J'ai eu cette chance-là. Je lis beaucoup de choses sur des femmes qui vont se plaindre, qui ne sont pas entendues. Moi, ce n'est pas mon cas. J'ai été prise au sérieux tout le temps. Puis après, la justice a joué son rôle, en fait. Hein, et par contre, moi aussi, j'étais actrice de ma situation. C'est-à-dire que je n'ai jamais baissé les bras. J'entends aujourd'hui beaucoup de féminicides. Hein. J'y pense, sincèrement. Hein. On n'est jamais à l'abri hein, de recroiser cette personne-là. Mais je pense que chaque acteur a vraiment bien joué.
Je vais me tourner vers vous, Claire Poupart, parce que ma Christine a beaucoup parlé de vous aussi, en disant Madame Poupart. Qui êtes-vous, Madame Poupart ?
Bonjour. Alors moi, je suis juriste en droit pénal au sein du CIDFF 17, France Victime 17, parce qu'il faut savoir que c'est une association d'utilité publique. Et oui, j'ai accompagné pendant quelques années maintenant Christine dans son parcours de victime, mais ça n'est pas ce qui la caractérise en tant qu'être humain, mais elle a été victime et effectivement, comme elle le dit elle aussi, elle est toujours quelque part victime de cet ex-compagnon.
Alors, l'accompagnement que vous réalisez, comment s'organise-t-il dès l'instant ? Il faut d'abord que la victime pousse la porte de votre association ?
Alors, pas forcément. Aujourd'hui, il y a un système que l'on appelle les alertes, c'est-à-dire que commissariat ou gendarmerie du secteur nous adresse obligatoirement toutes les plaintes de victimes de violences intrafamiliales. Donc à ce moment-là, l'association est proactive, c'est-à-dire qu'elle appelle la victime pour lui donner éventuellement les informations dont elle aurait besoin pour qu'elle puisse savoir un petit peu à quoi s'attendre concernant la procédure pénale. Parfois c'est un simple coup de téléphone et parfois c'est un accompagnement au long cours, on va dire.
En l'occurrence,
alors pour Christine, ça a été d'abord de lui expliquer ce qui allait se passer suite à son dépôt de plainte et de l'accompagner jusque, effectivement, lui expliquer l'audience, l'accompagner à l'audience, ensuite lui remettre le premier dispositif de protection dont elle a pu bénéficier, à savoir le bar, l'accompagner tout au long du bar, chaque fois qu'il y avait une alerte, ou de voir un petit peu comment ça se passait. En l'occurrence, aujourd'hui, pour son téléphone grave danger, nous l'appelons toutes les 3 semaines pour savoir un petit peu comment ça va. Et s'il y a une alerte, de toute façon, la plateforme nous appelle.
Vous diriez que les choses ont quand même évolué dans la prise en charge des victimes, l'accompagnement non seulement associatif, mais aussi l'accompagnement judiciaire?
Ah oui, ça n'a plus rien à voir. En ce qui me concerne, en 6 années, déjà les dispositifs de protection qui sont mis en place par la justice ont énormément évolué. Et puis, l'accompagnement en tant que tel est vraiment, vraiment, je dirais, bien plus à l'écoute. Il nous arrive de former les policiers, les gendarmes. Nous avons également des groupes de parole concernant les violences conjugales pour toutes les personnes qui sont victimes. Et aujourd'hui, oui, la prise en charge de tous les acteurs qui peuvent accompagner les victimes a beaucoup progressé.
Ça reste difficile ? Pour une victime, d'aller pousser une porte, quelle qu'elle soit, mais la porte de « j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de secours »
Je pense que oui. Même si la parole des victimes, elle s'est ouverte aujourd'hui, il faut comprendre que le système d'emprise fait que la victime pense qu'elle ne vaut rien. Et l'auteur lui dit, de toute façon, si tu vas raconter ton histoire, personne ne va te croire puisque tu es folle. Donc, quelque part, la victime, quoi qu'il arrive, elle a cette petite voix dans la tête. Alors, parfois, elle peut avoir de la famille qui va l'aider, qui va l'accompagner. Elle va pouvoir croiser une amie qui va dire « Ah, mais quand même, j'ai vu ou j'ai entendu un podcast qui parlait des victimes et j'ai l'impression que... » Il faut que ça vienne d'elle. Et ça, c'est difficile.
Et puis, quelquefois, il y a aussi des enfants.
Les enfants, nous, on dit qu'ils sont ce qu'on appelle la porte d'entrée pour la reprise de l'emprise. C'est-à-dire que c'est un point d'attache que l'auteur va pouvoir utiliser pour que la victime reste. Tu ne vas pas quand même faire ça aux enfants. Alors, il va y avoir ce chantage, là, par rapport aux enfants. Et puis ensuite, l'auteur va pouvoir s'attaquer à la femme en disant « Mais voilà, mais tu es une mauvaise mère. Donc, si tu agis, moi, je te prendrai les enfants. » Et ça, c'est compliqué, c'est difficile à vivre.
Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de victimes aujourd'hui qui ont du mal encore à faire cette démarche que vous qualifiez pourtant d'essentielle.
Oui, et c'est tout à fait explicable. Et quand on arrive à capter leur attention aux victimes, on leur explique aussi qu'il faut qu'elles soient bienveillantes avec elles-mêmes. Parce que les allers-retours, c'est-à-dire partir, même dans sa tête, c'est-à-dire se dire « je vais prendre un appartement, je vais appeler les organismes d'État pour avoir des aides », eh bien, ça peut se faire. Et puis, on peut repartir vers l'auteur. Parce que c'est une douleur qu'on connaît et qu'on maîtrise. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et on leur explique le cycle et qu'elles peuvent revenir à tout moment.
Alors là, vous avez la permanence pénale du parquet.
Au palais de justice de Saintes, une volée de marche solennelle conduite à la grande salle des assises. Justine Trier y a tourné Anatomie d'une chute. Et à l'entrée du tribunal, le bureau d'aide aux victimes tient une permanence 3 fois par semaine. C'est là qu'officient Claire Poupard et ses collègues, en lien direct avec Barbara Augereau, chargée de mission affectée à la lutte contre les violences intrafamiliales. Un poste prévu depuis janvier par les nouveaux pôles judiciaires, mais Sainte a pris un peu d'avance puisque la jeune femme est arrivée il y a 2 ans, avec pour mission première de mettre en place une cellule de veille.
Cette cellule de veille va évoquer des situations très concrètes. L'objectif, ça va être d'assurer une circulation de l'information entre ces différents partenaires qui vont avoir à connaître de la situation. Chaque membre va repartir avec des actions à mener. Ça peut être entendre une victime ou pour le CIDFF, faire le point avec une victime, notamment savoir s'il y a eu des nouvelles prises de contact. Ça peut être entendre un auteur, faire le lien avec un parquet extérieur ou avec un juge d'application extérieur qui aurait à connaître de la situation.
Et donc chaque partenaire, chaque participant arrive aussi peut-être avec ses propres informations, ses propres situations, c'est une notion de partage.
Ah oui, bien sûr, c'est ça tout l'intérêt en fait de la cellule de veille. Et le but, dans un secret partagé, va être de pouvoir échanger ces informations pour traiter au mieux la situation dans son ensemble. Et ça nous permet aussi, en échangeant les informations, de pouvoir anticiper certaines situations qui pourraient se présenter. Potentiellement, de pouvoir travailler sur un projet de sortie de détention qui pourrait permettre notamment à ce que la victime soit plus protégée. Il y a également des dispositifs ou des choses qui ont été mises en place entre mon arrivée et maintenant, notamment l'avis systématique des victimes de violences conjugales pour la sortie de détention. C'est quelque chose qui n'était pas fait avant nécessairement et je pense que ça a tout un intérêt, ne serait-ce que pour la victime, de pouvoir être avisée de la sortie de détention de l'auteur. Lorsqu'un auteur est en détention, il va y avoir des commissions d'application des peines. C'est à ce moment-là que le juge d'application des peines va notamment pouvoir... évoquer un aménagement de peine ou une permission de sortir. Donc moi, je vais faire un travail en amont, notamment pour identifier quels auteurs ont commis des violences intrafamiliales. Et à l'issue de cette commission d'application des peines, je vais recenser les personnes qui vont pouvoir bénéficier, par exemple, d'une permission de sortir. Et je vais souvent solliciter l'association d'aide aux victimes pour qu'elle prenne contact avec la victime afin de l'aviser de la sortie de détention de l'auteur, donc avec les dates précises. Et je vais également l'aviser, notamment, s'il y a une interdiction d'entrer en contact avec la victime.
Et vous pouvez me dire combien il y en a
Départ de Saintes, direction Poitiers, siège de la cour d'appel, où un groupe d'une quinzaine d'avocats spécialement formés a créé une permanence vif en janvier 2023 pour mieux accompagner les victimes dans le labyrinthe procédural, administratif et judiciaire auquel elles doivent faire face après un dépôt de plainte. Avec un téléphone dédié que s'échangent régulièrement les avocates Nathalie Manceau et Coralie Marchand.
Un dossier de violence intrafamiliale, c'est un dossier particulier avec souvent un lourd passif douloureux pour la victime. Donc ça nous apparaît, c'est important d'avoir des avocats formés et spécialisés à ces cas particuliers. Et ça nous paraissait aussi important de répondre aussi à l'urgence, puisque bien souvent c'est des dossiers qui, à la suite de la garde à vue de l'auteur, nécessitent effectivement une réponse pénale rapide, notamment en termes de comparution immédiate, de CRPC, donc des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité, mais déferment. Et donc, effectivement, de ne pas laisser la victime sur le bas-côté et de vraiment répondre à ses besoins et qu'elle fasse valoir ses droits, surtout, dans le cadre de ces procédures.
Nathalie Manceau, je suis avocat au barreau de Poitiers, membre du Conseil de l'Ordre et aussi en charge de la commission famille. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que pour ces victimes, c'est extrêmement difficile d'aller déposer cette plainte. Cette première démarche, elle est extrêmement compliquée. Et pour elles, ça va être un tsunami. C'est-à-dire que très souvent, dans la majorité des cas, il y a des enfants, des jeunes enfants ou pas, et qu'elles vont se retrouver face à l'institution judiciaire avec toute sa complexité, toutes les procédures possibles, tous les termes à utiliser, et elles n'ont pas de droit. Et elles se retrouvent seules, démunies, avec leurs enfants, elles ne savent pas quoi faire. Il y a une multitude de choses à faire, en termes de logement, en termes de protection, de tous ordres, et c'est vraiment un raz-de-marée pour elles. Et très souvent, elles sont dans cet état proche de la sidération, puisqu'elles sont d'abord très isolées la plupart du temps, elles ne sont plus en mesure de trouver les documents, de faire les démarches, de comprendre, de réagir. Donc vraiment, cet accompagnement, il est indispensable. Et c'est pour ça qu'on voulait aussi avoir une formation vraiment adéquate. Parce que travailler avec une victime de violence familiale, c'est pas travailler avec une victime d'un accident de voiture. C'est pas du tout le même travail et c'est pas du tout les mêmes circonstances non plus dans lesquelles on intervient.
Cette formation, qu'est-ce qu'elle vous a appris? Qu'est-ce qu'elle vous a permis d'appréhender? On parle notamment d'une notion qui est intéressante, mais pas forcément bien cernée, le contrôle coercitif.
Eh bien, par exemple, parce que le contrôle coercitif, en fait, ça va être tout ce que va mettre en œuvre un auteur à l'égard de sa victime pour contrôler tous les aspects de sa vie. Toutes les parcelles de vie sont contrôlées. Très souvent, la question qui se pose, c'est « Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti ?» Et cette question-là, en réalité, elles ne peuvent plus partir, puisque plus aucun espace de vie personnelle n'est laissé en libre arbitre. Ça va être un contrôle du téléphone, ça va être un contrôle des déplacements, avec des traceurs sur les voitures, contrôle financier, avec l'épluchage des tickets de course, un contrôle des relations avec l'extérieur. Évidemment, travailler, c'est très compliqué pour ces femmes-là. La plupart du temps, elles ne travaillent plus, donc elles n'ont plus de revenus. Et même quand elles travaillent, dans toute hypothèse, elles sont tellement suivies, pistées, que la relation avec l'extérieur est anéantie. Donc, tout cet aspect de contrôle de l'auteur à l'égard de sa victime fait qu'elles n'ont plus de libre arbitre. La pensée est annihilée. Très souvent, c'était le rapport Rouge-Vif notamment qui pointait ça, la violence physique, elle n'intervient qu'à partir du moment où elles vont décider de partir. Là, il y a un passage à l'acte physique, mais ce qu'il y a eu avant, ça a pu durer des années, parce que ça met des années à se mettre en place. Mais une fois que c'est en place, c'est extrêmement compliqué, c'est insurmontable en réalité, il n'y a plus de pensée.
Ma dernière permanence vif, j'étais vraiment submergée par l'émotion. C'est une femme, contrôle coercitif plus, éloignée de sa famille, vraiment une femme qui travaillait au CHU et qui avait son compagnon, avait le sentiment d'être rabaissée parce qu'elle gagnait plus d'argent que lui. Alors il y avait effectivement un problème d'alcool de monsieur et régulièrement elle dit, quand il se levait le matin, je voyais que ça allait mal tourner. Et le dernier matin auquel elle fait référence, c'est le matin où elle a effectivement fait pour la première fois appel aux gendarmes. Et pourquoi cette fois-là elle a fait appel aux gendarmes? Parce qu'elle sentait qu'il n'avait plus de verrou et que cette fois-là elle allait y passer. Le soir, elle commence à se prendre des gifles et là la violence va crescendo. Et donc là, elle fait pour la première fois appel aux gendarmes et elle a bien fait de le faire parce qu'effectivement il allait la tuer en réalité, puisqu'il avait saisi un couteau et continué à la herber de coups alors qu'elle était au sol.
On parle un peu des enfants aussi.
Ils sont toujours victimes, de toute façon, directement ou indirectement, c'est très clair, avec des conséquences pour eux sur leur construction psychologique qui va être extrêmement pesante et qui va obérer, en réalité, leur vie d'adulte et leur vie dans leur relation avec quelqu'un. Puisque quand vous avez grandi en ignorant que la violence n'était pas un mode de fonctionnement, que le contrôle de l'autre n'était pas un mode de fonctionnement, eh bien malheureusement, le risque de le reproduire, il est là et il est bien là. Donc il est vraiment important que les enfants, autant que les victimes, les mères ou les femmes victimes, il est extrêmement important que la considération de la place de ces enfants soit faite également, ce qui n'est pas toujours le cas encore aujourd'hui, effectivement. Donc il y a encore beaucoup de travail, c'est vrai qu'on est parti de rien, mais il y a encore une masse de travail inouï à donner.
Pour mieux sensibiliser les acteurs du monde judiciaire à la question des violences intrafamiliales, l'ENM, l'École nationale de la magistrature, vient d'ouvrir un nouveau cycle approfondi dans le cadre de la formation continue. Et ils étaient 200 environ, juges, procureurs, assistants spécialisés, à prendre place dans un grand amphithéâtre il y a 10 jours à Paris.
Merci à tous. Donc il me revient d'ouvrir cette session et d'ouvrir ce cycle. Je cède immédiatement la parole aux deux experts réels du sujet, Madame la Première Présidente Gwenola Joly-Cauze, Monsieur le Procureur Général Éric Corbeau.
Deux journées inaugurales, pilotées justement par les deux chefs de cour de Poitiers, Gwenola Joly-Cauze, Première Présidente de la Cour d'appel, et Éric Corbeau, Procureur Général, un duo qui avait déjà œuvré ensemble à Pontoise avec la pose du premier bracelet anti-rapprochement. Au hasard des mutations, ils se sont retrouvés dans la Vienne, toujours animés par ce même objectif qui les a fait réfléchir au fil du temps, y compris sur eux-mêmes.
L'idée qu'on voulait partager avec vous ce matin, c'était de travailler sur nos représentations professionnelles. Que pensons-nous savoir? Que croyons-nous savoir? À quoi sommes-nous adossés en nous disant...
Moi, je crois très profondément que pour mieux juger, il faut mieux comprendre. Si nous ne comprenons pas le phénomène global de la lutte contre les violences faites aux femmes et si nous n'avons pas une idée très précise de l'ensemble de ces concepts qui se sont développés au fil des dernières années, eh bien nous sommes de moins bons juges. J'ai été une jeune juge aux affaires familiales et j'ai fait des choses qu'aujourd'hui je ne referai plus. Je pense que c'est important de savoir, en tant que professionnelle, avoir une certaine introspection et un recul sur ces pratiques professionnelles. Oui, j'ai changé. Je ne suis plus la même juge qu'il y a 20 ans et heureusement. Entre-temps, j'ai appris, j'ai lu, j'ai compris. Et des choses qui me semblent aujourd'hui infaisables, je les ai faites. Un des meilleurs exemples, le plus simple, bien sûr, c'était cette doxa qui était développée dans les tribunaux, qui nous faisait croire qu'un mauvais mari pouvait être un bon père. Et nous savons aujourd'hui que c'est faux, que lorsque monsieur frappe madame devant les enfants, évidemment c'est un traumatisme familial et que imposer des droits de visite et d'hébergement ou même parfois des gardes alternées dans ces conditions, ça n'a pas de sens. Pourtant à l'époque nous le faisions.
Et ça, vous avez envie, je suppose, de le transmettre à tous les magistrats qui sont là aujourd'hui parce que nous sommes à l'ENM pour une session de formation.
Alors il s'agit maintenant de former l'ensemble des magistrats français à ces avancées conceptuelles. Je le dis souvent, il y a eu un dynamisme notionnel au cours de ces 15 dernières années assez incroyable. Et il faut que les magistrats en soient partie prenante, qu'ils les connaissent, qu'ils les comprennent et qu'ils puissent s'en servir, y compris dans leur jurisprudence, pour adosser parfois des infractions pénales à des grands concepts psychosociaux.
C'est pas toujours facile de manier les concepts dans une activité juridique, dans une activité judiciaire. Il y a toujours cette importance de la charge de la preuve quand même dans une décision judiciaire.
Bien sûr, nous ne devons pas nous extraire des grandes valeurs, des grands principes qui fondent une justice dans un état de droit. Le principe du contradictoire, on doit opposer des arguments. La présomption d'innocence, qui est une question importante, qui est souvent, là aussi, une question qui est souvent posée par des victimes en disant « mais pourquoi bénéficie-t-il de la présomption d'innocence ?» Voilà. On est sur des piliers de l'état de droit et de notre système judiciaire qui, on peut entendre les questionnements sur ces sujets-là, mais actuellement, c'est avec cela qu'on travaille et il faut y réfléchir. Et donc, voilà. Mais ça n'empêche pas le juge quand même de connaître les mécanismes psychosociaux qui sont à l'œuvre dans les relations entre l'auteur et la victime. Les notions de contrôle coercitif, des notions d'emprise, tout ça, ça explique aussi des comportements. Ça explique pourquoi une victime parfois peut nous paraître agaçante, pourquoi, et je mets des guillemets bien entendu autour de cet adjectif, mais parce que la victime qui va dire non mais je veux retourner avec mon conjoint qui était violent, ou cette question que certains ont posée, que des enquêteurs, que des juges ont posée, mais pourquoi êtes-vous pas parti plus tôt ? Voilà. Donc il faut comprendre pourquoi. Les victimes sont dans cette situation-là, viennent peut-être tardivement déposer plainte, ont peut-être du mal à expliquer les choses. Et ça permet de mieux les entendre, de mieux les comprendre et donc de mieux juger.
En fait, les magistrats doivent s'emparer des infractions pénales, celles qui sont à leur disposition dans l'arsenal législatif aujourd'hui français. Alors je vous en donne quelques exemples, le harcèlement, les menaces de mort, les violences avec ITT de plus de 8 jours. Voilà, tout ça, ce sont des infractions pénales. Nous pouvons les juger, les caractériser, comme nous devons toujours le faire dans le cadre d'un syllogisme judiciaire, qui est notre habitude. Mais ce que nous pouvons faire de plus, c'est recontextualiser cette infraction pénale dans un grand concept psychosocial qui est le contrôle coercitif. C'est-à-dire mieux comprendre que, par exemple, ces menaces de mort, eh bien, en fait, elles font partie d'un mécanisme de micro-contrôle et de surveillance de madame. J'ai souvenir dans un des dossiers que j'ai jugé, par exemple, que monsieur avait mis un traceur dans la voiture de madame pour savoir sans cesse où elle était et pouvoir la surprendre à tout moment dans ses déplacements de sa vie quotidienne et lui montrer qu'il était toujours là, qu'il pouvait la surveiller, la contrôler, agir sur son quotidien. Et bien ça, en fait, ça fait partie de tous ces micro-contrôles, micro-régulations de la vie des femmes qui les laissent souvent en état d'épuisement émotionnel. Et c'est là aussi où nous avons parfois des suicides, ce qu'on appelle les suicides forcés aujourd'hui, c'est-à-dire des femmes qui sont tellement désespérées que pour s'extraire en fait, de cette domination permanente, eh bien, elles choisissent la mort elles-mêmes.
À vous entendre, on voit que la justice avance d'une certaine manière dans ce domaine-là.
Alors je pense que la justice a profondément avancé au cours de ces dernières années, qu'on ne dit pas assez à quel point la justice s'est transformée ces 15 dernières années pour faire face à ce phénomène. Les violences ont été traitées dans le cadre du Grenelle en 2019, le plan Rouge-Vif en 2023 a donné un nouvel élan. La justice n'a cessé de se former, d'évoluer, de s'adapter. La formation, c'est important, et aujourd'hui encore, avec l'École nationale de la magistrature qui lance ce nouveau cycle approfondi d'études des violences intrafamiliales, eh bien elle montre qu'elle est capable de se transformer. Il faut d'abord dire que la justice entend, qu'elle écoute ce qui se passe, qu'elle est le réceptacle en fait de toutes ces demandes sociales et qu'elle est à l'écoute des citoyens et des citoyennes de ce pays. La justice, d'abord et avant tout, elle doit maintenant, et c'est l'étape qu'elle a à franchir devant elle maintenant, c'est de rompre ses problèmes de calendrier et de gestion successive des problèmes au pénal et au civil. Ce que nous demandent aujourd'hui les victimes, c'est de cesser de traiter de manière différente le pénal et le civil. Ça pose de grands problèmes d'organisation, de procédure judiciaire, mais nous devons les surmonter. Et c'est pour ça qu'à Poitiers, nous avons tenté cette grande expérimentation qui vise le même jour, avec les mêmes magistrats, dans la même salle d'audience, à juger l'aspect pénal et l'aspect civil de la situation. Il s'agit d'une sorte de révolution judiciaire, d'expérimentation, qui nous permet de voir si finalement le juge ne sera pas meilleur, mais aussi les avocats, pour traiter ce système familial dans ce qu'on appelle une justice résolutive de problèmes.
À Poitiers, le 31 janvier dernier, 5 arrêts de la Cour d'appel ont fait passer le concept de contrôle coercitif dans la jurisprudence. Ils le décrivent comme une atteinte aux droits humains, en ce qu'il empêche la victime de jouir de ses droits fondamentaux.
Ok, parfait. Bon, c'est intéressant, de voir sur une salle comme la nôtre, le premier mot, enfin le mot...
Retour dans l'amphi et un premier exercice interactif. Téléphone portable en main, chacun des participants est invité à écrire le mot qui symbolise le mieux pour lui les violences intrafamiliales. Sans surprise, emprise s'affiche en premier sur l'écran. Tout autour, traumatisme, manipulation, isolement, domination, urgence, souffrance, mais également complexe. Le sujet l'est davantage que l'on ne pense pour les magistrats.
Alors, je suis Marie Pantier, je suis juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire d'Orléans depuis un an. Alors on parlait donc des victimes, de l'emprise que peuvent avoir les auteurs sur les victimes. Et c'est vrai que moi j'ai parlé de cette montagne qu'il nous faut donc franchir, nous, en tant que professionnels de la justice, et qui parfois je trouve infranchissable parce que c'est parfois difficile donc de recueillir la parole des victimes et parfois celles-ci donc changent d'avis, changent de positionnement et arrivent à l'audience en nous disant bah finalement je veux retirer ma plainte, moi je veux pas que ça prenne ces proportions-là, je veux surtout pas que monsieur, parce que ce sont souvent voilà des femmes qui portent plainte contre des hommes, je veux pas qu'il aille en prison, je veux reformer mon couple, je veux retourner à la maison, je veux que les interdictions de contact soient levées. Et donc c'est vrai que je trouve que c'est difficile de trouver les mots, de trouver le positionnement juste pour appréhender cette victime qui finalement change d'avis en cours de route.
Une victime, vous l'avez dit, en fait, d'autres personnes l'ont dit, qui parfois peut même agacer.
Oui, c'est effectivement le mot sur lequel on nous a fait travailler ce matin. Effectivement, ça peut avoir quelque chose d'agaçant, dans un premier sentiment, une victime qui change d'avis, qui souhaiterait que la procédure soit abandonnée. Mais je trouve que ce sentiment est lié tout de suite à un sentiment de tristesse parce que nous, donc en tant que professionnels de la justice et du droit, on connaît le phénomène d'emprise, le phénomène cyclique des violences conjugales et donc on sait que cette victime, si elle retourne dans sa vie de couple antérieure, elle va être de nouveau probablement confrontée à de nouvelles violences. Et donc c'est quelque chose que nous, on doit essayer de contrer. Et c'est effectivement assez triste de voir que ces victimes, elles ne comprennent pas encore ce qui est en train de leur arriver. Et c'est vrai que c'est parfois difficile de faire face à ça et d'appréhender les choses tout en gardant l'impartialité qu'on nous demande d'avoir.
Et que fait la juge que vous êtes en pareil cas ?
Nous, on a un devoir d'explication déjà de la procédure, la façon dont les choses se passent. Et on a un devoir aussi de protéger les victimes. Alors ça serait plus un volet pénal, même contre leur volonté, puisque en matière pénale notamment, c'est le procureur de la République qui poursuit l'auteur présumé, que la victime ait décidé de retirer ou non sa plainte, puisque ce qui compte, ce sont les éléments matériels du dossier et pas forcément uniquement la plainte de la victime. Et ça, c'est quelque chose auquel on peut se raccrocher et qui est très important pour nous.
Quelquefois, on voit les juges, on a l'impression de voir les juges enfermés dans leur tour d'ivoire. En fait, vous nous dites, c'est pas vrai, on se pose plein de questions.
Ah oui, on se pose plein de questions tous les jours parce que chaque situation est différente. Alors nous, on pose le cadre du droit, on tranche les litiges, mais effectivement, on se pose tout un tas de questions puisque le droit vient en collision en quelque sorte avec la vie privée des gens. Il faut faire avec tout ça et donc oui, on se pose énormément de questions. Et je trouve que c'est aussi ce qui est important dans cette formation et dans ce à quoi on assiste aujourd'hui.
Parce que dans votre métier, il y a aussi un point fondamental, un point pivot, c'est la preuve.
Oui, bien sûr. Ah bah oui, c'est tout ce qui nous importe. Effectivement, donc ces preuves-là, il faut les recueillir. Puis il faut surtout appliquer la règle de droit en fonction des éléments qu'on a. Mais c'est vrai que je trouve que c'est très important de pouvoir aussi entendre des professionnels d'autres, des médecins, des sociologues, des anthropologues, pour nous éclairer aussi sur certaines situations qu'on voit, que nous, on peut à première vue voir comme quelque chose, une victime qui va retirer sa plainte, il n'y a plus de plainte, il n'y a plus de preuves, c'est terminé. Aussi pouvoir élargir la réflexion et se dire que tout ça fait partie d'un phénomène plus large. Et on sait maintenant que les violences intrafamiliales, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que juste une personne qui va porter plainte puis retirer sa plainte.
Après les premiers échanges, place aux spécialistes pour décrypter ce concept de contrôle coercitif. 75% des cas de violence conjugale, rappelle une docteure en psychologie. Cessons de parler de crimes passionnels, s'insurge une historienne. Puis le psychotrauma, l'amnésie dissociative, comment les violences marquent-elles les victimes? Comment impactent-elles les enfants? Comment la médecine légale objective-t-elle ces violences? Parmi ces spécialistes, Alexia Delbreil, psychiatre et médecin légiste, est venue exposer son travail et présenter la maison des femmes, la maison de Freya, qui s'est installée au cœur du CHU de Poitiers.
La porte est ouverte.
On y va? Mais la maison de Freya, mais d'où ça vient ce nom?
C'est une déesse nordique qui représente la femme et surtout sa force, sa puissance, puisque elle est identifiée comme une guerrière.
Un établissement de santé avec une prise en charge globale de la plainte jusqu'à la reconstruction.
Alors on accueille les femmes victimes de tout type de violences. On a beaucoup de violences intrafamiliales, mais on a aussi des victimes de violences sexuelles extrafamiliales, des victimes de harcèlement au travail par exemple, harcèlement par du voisinage, par des proches. Les personnes arrivent en fait par cette entrée unique qui est fermée et protégée, donc elles s'annoncent en fait auprès du secrétariat. On vérifie qu'elles ont bien rendez-vous ici avant d'ouvrir. Et on a une salle d'attente qui est unique dans laquelle on va faire cohabiter les enfants et les adultes. Ici, on a les salles de consultation. On consulte les médecins légistes pour la réalisation des certificats de coups et blessures et la détermination de l'incapacité totale de travail pour les victimes.
Vous êtes également l'auteur d'une thèse. Elle s'articule comment, cette thèse ? Elle a un nom, peut-être ?
Oui, c'est une recherche sur les facteurs qui nous permettraient de pouvoir prévenir l'homicide conjugal, de pouvoir le repérer. Donc pour cela, j'ai eu l'autorisation de la chancellerie de pouvoir étudier depuis une dizaine d'années maintenant tous les dossiers qui ont été jugés en cour d'assises pour homicide ou tentative d'homicide sur conjoint sur toute la cour d'appel de Poitiers. Dans beaucoup de dossiers, on a plusieurs petits facteurs que l'on pourrait repérer. Par exemple, lorsque le passage à l'acte criminel est commis par les hommes, une des caractéristiques particulières, c'est que le facteur déclenchant, c'est-à-dire dans les semaines ou les mois qui précèdent le passage à l'acte, le facteur principal, c'est la séparation, qui est retrouvée dans 70% des cas.
Est-ce que les violences, qu'elles soient psychiques ou physiques, précèdent toujours ces passages à l'acte, vers donc l'acte homicide ?
Pas forcément. On a tendance à penser qu'on a au minimum de la violence psychologique au sein du couple. Ensuite, on a tout un autre champ de crimes qui est commis de manière très impulsive, avec moins de facteurs déclenchants, en tout cas moins de repérage possible, parce qu'on n'a pas cette violence conjugale. On sait aussi qu'à l'intérieur de ces dossiers, on a seulement 17% de victimes qui avaient au préalable porté plainte pour violence conjugale. Ce qui fait que c'est très peu de dossiers qui sont déjà connus de la justice. On dit souvent la justice est passée à côté de quelque chose quand ce sont les dossiers connus, mais on a finalement plus de 80% des dossiers pour lesquels l'auteur et la victime n'étaient pas connus, n'avaient pas de casier judiciaire, n'avaient pas d'antécédent judiciaire. Donc ça, c'est une difficulté supplémentaire dans le repérage.
Vous parlez dans votre thèse de la notion de surmeurtre. Qu'est-ce que c'est ?
Alors on s'est rendu compte dans les profils des auteurs et dans les modes opératoires du passage à l'acte qu'il y avait une caractéristique qui était très masculine. Pour quasiment 40% des homicides conjugaux de notre étude, un nombre de coups donnés qui est supérieur à ce qui est nécessaire pour entraîner la mort de la victime. Ou une multiplication de modes opératoires, par exemple un coup donné sur la tête avec un objet contondant, puis pour s'assurer que la personne ne respire plus, on lui met un sac en plastique sur la tête, et pour être bien sûr que l'air ne passe pas, on strangule la victime en mettant un lien autour du cou, autour de la poche plastique, ce genre de choses. On a une pulsion criminelle qui se décharge, et après le premier coup, il n'y a pas d'arrêt. Il y a un acharnement sur le corps de la victime, finalement, qui s'arrête au moment où la tension psychique de l'auteur, elle diminue, ou alors au moment où il fatigue. Mais entre-temps, il n'y a aucune prise de conscience, en fait. Ce qui n'est pas le cas des passages à l'acte des femmes, qui généralement sont commis avec un seul mode opératoire, et au moment de la constatation du décès, ça s'arrête.
Pourquoi c'est important pour les magistrats, pour les acteurs judiciaires, de connaître tout ça ?
S'ils connaissent, ils peuvent aussi mieux identifier, je pense. Mieux identifier les signes précurseurs, mieux identifier la dangerosité. Et donc mettre en place les mesures de protection avant de risquer un passage à l'acte mortel. Nous, ce qu'on espère, c'est de pouvoir diffuser au maximum, en fait, le constat que l'on peut faire sur les facteurs de risque, même auprès de la population générale. C'est pas simplement la justice qu'il faut alerter, mais c'est aussi d'autres types de professionnels que les victimes vont rencontrer en premier lieu. Par exemple, les professionnels de santé, libéraux, aux urgences, dans les institutions hospitalières, mais également les professionnels du champ social, de l'éducation.
Les médecins légistes qui composent les équipes peuvent intervenir, on l'imagine bien, quand ils voient des hématomes, des coups, des blessures, mais ils peuvent intervenir aussi sur un plan psychique. Aujourd'hui, ce n'était pas toujours le cas.
C'est une des évolution de ces dernières années. Le médecin légiste que rencontre la victime doit être formé à recevoir sa parole et ses doléances à la fois sur le plan physique et sur le plan psychologique. Il doit savoir en évaluer les bases pour déterminer dans ses conclusions s'il y a ou non un retentissement psychologique sur cette personne. Et il apparaît normal qu'une victime de violence psychologique sans violence physique ait la même proposition de certificat de soins qu'une victime de violence physique.
Quand on vous écoute, on voit qu'il y a eu du chemin parcouru. Il reste du chemin à parcourir ?
Oui, il reste beaucoup de chemin à parcourir encore, parce que ça, c'est ce vers quoi on aimerait tendre partout. On sait que ce n'est pas le cas sur l'ensemble du territoire, puisque il y a encore 2 jours à la formation ENM, beaucoup de magistrats disaient que les légistes sur leur territoire refusaient même d'identifier les violences psychologiques, refusaient de voir ces victimes et n'en prenaient pas compte dans leur certificat. Ce qui est très très dommageable de ne pas avoir le même type de prise en charge d'un département à l'autre.
Chaque fois qu'on la frappe, il y pousse une violette. On fait du mal. Je veux pas qu'on fasse du mal. L'amour.
Violence intrafamiliale, le nouveau combat judiciaire, un reportage de Florence Turme avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Et l'invitée de ce grand reportage est la sociologue Solène Joanneau, maîtresse de conférences à Sciences Po Strasbourg. On vient d'entendre des personnes très engagées, mais de là à dire que la justice soit pleinement à l'écoute des victimes, il y a encore du travail. Le docteur Delbrey, qu'on entendait à l'instant, parlait de la réticence de certains médecins légistes à se pencher sur les violences psychologiques. On n'aura donc pas les mêmes chances selon les professionnels auxquels on aura affaire ou selon le département dans lequel on habite ?
Oui, il y a une grande différence d'un territoire à l'autre aujourd'hui. C'est vrai pour les médecins légistes, c'est vrai aussi pour les juridictions. Par exemple, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais moi, quand j'enquêtais en 2016 sur les ordonnances de protection, par exemple sur les ITT pour violences psychologiques, il y avait des magistrats qui refusaient de les prendre en considération parce qu'ils trouvaient qu'elles étaient toujours très très élevées, trop élevées. Donc, ça dépend de est-ce qu'ils ont été formés à ces questions-là. De leur intérêt aussi pour ce contentieux-là.
On a parlé beaucoup de plusieurs dispositifs au sein du reportage. On a moins parlé de l'ordonnance de protection. Qui est votre sujet d'étude ? Est-ce qu'on peut rappeler de quoi il s'agit précisément ? Parce que c'est un dispositif important. Et surtout, s'il a une action véritable dans le champ judiciaire.
Alors, l'ordonnance de protection, c'est un dispositif qui a été mis en place à partir de 2010 et qui, comme vous le racontez dans le reportage, visait à remettre en cause la sacro-sainte séparation en France du civil et du pénal. Donc en fait, c'est un dispositif qui a été confié à la justice civile, aux juges d'affaires familiales, donc ceux qui s'occupent des divorces, et qui permet à des femmes victimes de violences d'obtenir à coup sûr une audience pour présenter leur situation. Et si le juge considère qu'elles sont vraisemblablement victimes de violences et vraisemblablement en danger, alors, il peut délivrer à la fois des mesures civiles classiques d'organisation des conséquences de la séparation et aussi des mesures pénales d'éloignement du type interdiction d'entrer en contact, interdiction de port d'armes, interdiction de se rendre en certains lieux.
Et ça, même s'il n'y a pas eu une plainte justement au pénal ?
Alors, en théorie. En théorie, oui, mais si en 2019, on a été obligé d'inscrire dans la loi que c'était une possibilité, c'est bien que ça n'était pas respecté par les juges. Ce qu'on entend beaucoup dans le reportage, c'est la question du probatoire, la question de la preuve. Et donc, les magistrats... Alors, la loi dit vraisemblance des violences vraisemblables, c'est pour dire qu'elles n'ont pas besoin d'être caractérisées pénalement. Donc on abaisse le niveau de preuves demandées. Il n'empêche que, par exemple, quand moi j'ai enquêté en 2016, on a fait en fait une photographie de toutes les décisions rendues au fond en lien avec le ministère de la Justice. Donc on a pris l'ensemble des décisions et on a regardé quand est-ce que l'ordonnance était donnée ou pas. Et en fait, ce dont on se rend compte, hein, c'est que dans la très très grande majorité des cas où l'ordonnance est délivrée, les magistrats avaient une plainte et un certificat médical, généralement des UMJ, c'est-à-dire des unicaux médico-judiciaires de la médecine légale. Donc en fait, il faut prouver l'existence des violences et c'est particulièrement compliqué dans l'ordonnance de protection puisque comme on est dans un dispositif civil, c'est aux victimes de prouver qu'elles ont bien été victimes de violences. D'ailleurs, elles n'ont pas le statut de victime lorsqu'elles arrivent devant le juge d'affaires familiales, elles ont le statut de partie en demande. Alors que quand vous êtes au pénal, ben vous avez un parquetier qui a enquêté via les officiers de police judiciaire et quand en général, vous arrivez à l'audience, vous avez le statut de victime. D'ailleurs, vous avez vu, les juges du parquet parlent de victime. Mmh. En justice familiale, on ne parle pas de victime.
Alors, est-ce que cette existence de l'ordonnance de protection a quand même changé les habitudes des juges ?
Alors, elle a changé elle les a changées parce qu'elle les a obligées à regarder la violence conjugale en face. Pourquoi ? Parce que dans la réforme du divorce de 2004, on dit que les causes du divorce n'ont pas à être évoquées au moment de ce qu'on appelle l'ordonnance de non-conciliation, par exemple. Et donc, ça voulait dire qu'en fait, on pouvait demander un divorce pour faute, pour violence conjugale, mais c'est dans la partie écrite de la procédure, qui n'est pas la partie, par exemple, où on décide de comment est-ce qu'on va s'organiser la vie de famille à partir de la séparation. Ça voulait dire qu'en fait, quand les femmes disaient qu'elles avaient été victimes de violences, on allait leur dire, non mais ça, c'est pour la partie écrite. On n'évoque pas les causes de la séparation. Donc, ça veut dire notamment que avant l'ordonnance de protection, à moins qu'il y ait des très très grosses défaillances parentales du côté du père, c'est-à-dire que les violences sur la femme s'accompagnaient de violences sur les enfants, on ne tenait pas compte dans l'organisation de la séparation du fait qu'il y avait eu des violences et que les enfants, ils avaient été victimes indirectement ou directement de ces violences-là, parce qu'ils en avaient été témoins.
Ça veut dire qu'on est passé d'un système du concilié à un système du protégé ou pas encore ?
Alors, en tout cas, l'ordonnance de protection, c'est ce qu'elle propose. On est dans un système où la règle dans les séparations conjugales, c'est de maintenir, par exemple, le couple parental, et où, effectivement, les juges d'affaires familiales en France sont des juges de la conciliation des intérêts des parties au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce que vient dire l'ordonnance de protection, c'est qu'il y a des situations où, en fait, on n'est pas dans du conflit. On est dans de la violence et que donc le juge n'est pas là pour concilier les intérêts, il est là pour juger, pour les hiérarchiser. Et c'est ça qui est compliqué pour les juges, c'est que du coup on leur demande de passer d'un régime judiciaire quasiment à un autre en matière de gestion de la séparation. Et ils ont pour ça 15 minutes, parce qu'une audience d'ordonnance de protection, c'est très rapide, ça fait 15, 20, 30 minutes maximum. Et donc c'est compliqué pour eux de passer de l'un à l'autre. Donc effectivement, on leur demande de devenir des juges protecteurs, et ça prend du temps.
Et on demande à la justice d'être rapide. Au début du mois, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi qui crée un nouvel outil de protection des victimes, une ordonnance provisoire de protection immédiate. Ça doit permettre au juge de prononcer des mesures d'urgence sous 24 heures. Est-ce que c'est une initiative qui vous semble positive ?
Bah, moi, j'ai l'impression que là, on est vraiment sur une loi qui est ultra symbolique. D'abord, en l'état des moyens de la justice civile française, je ne vois pas comment on va pouvoir audiencer en moins de 24 heures. Et par ailleurs, ce que disent tous les juges aux affaires familiales, et ils n'ont pas complètement tort, c'est que les mesures les plus protectrices, c'est celles qui sont aujourd'hui prononcées par la justice pénale. Et donc, si on est à un niveau de violence et de danger qui nécessite d'intervenir en 24 heures, en réalité, on est dans des cas qui relèvent de la justice pénale. Et donc, je pense que pour le coup, le dispositif, il est sur le papier, il est joli, mais c'est un dispositif symbolique qui risque d'avoir beaucoup de mal à être mis en place, en fait.
Donc, est-ce que vous diriez qu'en réalité, le dispositif législatif existant suffit dans l'absolu ?
Il suffit. Enfin, en tout cas, j'aurais envie de dire que la première étape, c'est qu'il faut qu'il soit appliqué par les juges. En fait, pour vous donner quelques exemples, l'ordonnance de protection dans sa version espagnole, l'Orden de Protección, c'est 30 000 demandes par an, avec un taux d'acceptation de 70% des demandes de protection. En France, en 2021, on n'était pas encore à 6000 ordonnances de protection dans l'année. Et sur la décennie qui s'est écoulée, c'est-à-dire de 2010 à 2020, on était sur un taux d'acceptation qui était de 60%. Donc vous imaginez, on a un taux quasiment, un nombre de demandes quasiment ridicule. Et encore avec ce peu de demandes, les juges ont beaucoup de mal à l'accorder. Donc déjà, à mon avis, il faut former les juges, ce qui est bien montré dans le reportage, pour qu'ils accordent plus d'ordonnances de protection. Parce que là, comme en fait ils en accordent peu, bah les avocats, ils vous le disent, eux, leur but, c'est de protéger les victimes. Donc s'ils sont dans une juridiction où ils savent que les JAF, les juges d'affaires familiales, délivrent peu d'ordonnances de protection, ils vont plutôt passer au pénal plutôt que par l'ordonnance.
Le modèle espagnol est très souvent cité en exemple, y compris pour le bracelet anti-rapprochement. Qu'est-ce qu'ils font de vraiment mieux que nous? De quoi on pourrait s'inspirer?
Ce qui est vraiment intéressant, moi, je trouve, dans le système espagnol, c'est que, d'abord, la réflexion sur la lutte contre les violences conjugales est vraiment arrimée à une réflexion sur les violences de genre. C'est-à-dire qu'on considère en Espagne que les violences conjugales sont une forme de discrimination faite à l'ensemble des femmes. Aujourd'hui, en France, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, si vous regardez, alors avant, on parlait de violences conjugales. Maintenant, on parle de violences intrafamiliales. Moi, par exemple, dans mon ouvrage, je parle systématiquement de violences masculines dans le couple. Parce qu'en fait, quand on dit violence conjugale, en fait, on fait du couple l'agent de la violence. On peut désigner les femmes comme des victimes, sans désigner les hommes comme des auteurs, en fait. Et donc, ce qui est intéressant dans la loi espagnole, c'est qu'il pense à la fois les situations individuelles des familles, et en même temps, il le relie à une grande question plus structurelle, qui est celle des inégalités entre les femmes et les hommes dans la plupart des pays du monde.
Mais est-ce que la réticence française n'est pas liée au fait qu'il y a aussi des hommes victimes qu'il faudrait reconnaître ?
Alors, moi, je peux parler que de ce que je connais. En tout cas, la violence conjugale judiciarisée, pour les ordonnances de protection, dans 98% des cas, ce sont des femmes qui demandent à bénéficier d'une ordonnance de protection. Les quelques hommes qui la demandent, alors soit c'est dans des cas de... C'est une réponse à une demande d'ordonnance de protection, c'est-à-dire que parce que leur compagne a demandé une ordonnance de protection, la meilleure défense, c'est l'attaque. On en demande une aussi pour accréditer la thèse des violences réciproques. Ou alors, ce sont des hommes dans des couples de même sexe. Et au pénal, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en tout cas, moi, j'ai dans ce que je peux observer, c'est quand même un phénomène qui touche avant tout les femmes. Alors ça veut pas dire que les femmes peuvent pas commettre des actes de violence dans le couple. Ça veut dire qu'elles ont une signification et une gravité différentes. Les statistiques, par exemple, de l'enquête Virage, qui est l'enquête sur la violence de genre, le montrent très bien. C'est-à-dire que les femmes frappent moins souvent, moins fort, que les conséquences sur la santé des hommes est différente. Et surtout, je pense que les hommes n'ont pas peur quand ils sont victimes de violences à l'intérieur du couple. Ils n'ont pas peur de mourir. Alors que les femmes, on le voit bien dans le témoignage de la victime que vous avez entendue, elle a vécu plusieurs années avec la peur d'y passer. Et je crois que la différence est là.
Dans les mesures qui restent à prendre, alors vous évoquiez la nécessité de former encore davantage les juges. Est-ce que le problème, il est aussi dans les financements, les moyens humains? On sait qu'évidemment, la justice en manque. Ou est-ce que, sur le fond, c'est autre chose qu'il faut mettre en œuvre encore?
Alors, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que quand la violence est déjà là, il faut donner des moyens aux victimes de se protéger. Et donc, évidemment qu'il est très important d'augmenter les financements de lutte contre les violences conjugales. Ça, c'est absolument essentiel. Après, une partie de ces dispositifs, des fois, on a le sentiment que c'est un peu un pansement sur une jambe de bois, parce qu'en réalité, si on touche pas à ce qui provoque ces violences-là, c'est-à-dire aux inégalités structurelles entre les femmes et les hommes au sein de la société, ces violences-là, elles vont perdurer. Donc il y a aussi beaucoup à faire pour investir le champ de l'éducation à l'égalité, travailler aussi pour que les comportements entre les hommes et les femmes changent. Parce qu'en fait, ça n'est que la manifestation à l'échelle de la famille de processus de domination qui traversent l'ensemble de nos sociétés, en fait.
Et puis, la décision judiciaire à elle seule est loin de tout résoudre. On entendait le raz-de-marée que ça représente pour une femme d'aller porter plainte. C'est tout son monde qui s'écroule et donc elle aurait besoin d'un autre accompagnement.
Oui, alors cet accompagnement-là aussi, il a besoin d'être financé. C'est celui qui est mené par les associations d'aide aux victimes. Alors, associations d'aide aux victimes féministes et associations d'aide aux victimes généralistes qui sont évidemment sous-financées en France à l'heure actuelle.
Merci Solène Joanneau. Le grand reportage « Violence intrafamiliale, le nouveau combat judiciaire » était signé Florence Turm. Réalisation Annie Bro, Noé Chaban était à la technique. Merci à Caroline Beneteau au web, à Corinne Chauvel, Patricia Miura et Véronique Lefalère pour la documentation. Enfin, je vous invite à partager cette émission de la rédaction. Rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.